Chop it.
Le manche disque. L'émission qui tourne à 33 tours minutes.
Et salut à vous les manches disques, bienvenue à bord de notre émission numéro 4. Le manche disque, l'émission qui crépite comme les disques vinyles qu'on vous fait écouter, dont on vous parle tous les 15 jours sur Radio G. Et au sommaire de ce soir, du rock, du jazz, du hip-hop, du blues sans guitare, de la musique électronique robotique sur un disque rayé, et bien sûr la traditionnelle interview de fin d'émission. Mais tout de suite, on commence par du funk, du vrai, du pur.
Give it up, Pooh Pooh Pop.
Et salut Julien, comment ça va ?
Bonsoir, ça va très très bien et toi ?
Eh ben écoute, ça va bien, surtout quand on commence avec un de mes morceaux préférés, un morceau des JB's. D'ailleurs, j'ai passé pratiquement la moitié de ma vie à dire JB's, et puis je me suis aperçu qu'en anglais on dit JB's, puisque ce sont les initiales de James Brown. Puisque les JB's, ce sont les musiciens de James Brown, en fait, à partir de 1970 et jusqu'aux années 80, après la dissolution de la première formation des musiciens qui s'appelait les James Brown Band, ou enfin voilà, plein de mots comme ça, James Brown Orchestra, pour des raisons financières. En fait, ils se sont brouillés avec James Brown parce qu'ils pensaient ne pas être assez payés. Du coup, James Brown, il a dit « Ok, vous n'êtes pas assez payés, bah, vous dégagez tous et puis je vais faire une autre formation. » Et donc, les JB's ont vraiment marqué l'histoire du funk. On peut vraiment les qualifier assez justement, je pense, de pionniers, voire d'inventeurs du funk. Voilà. Le morceau qu'on s'est écouté, c'était « Giving Up Food for Funk, Part 1 and 2 ». C'est pour ça qu'au milieu de la chanson, vous avez entendu une descente de volume et une remontée. C'est parce que c'était les deux parties enchaînées d'un morceau qui n'est jamais sorti en album. Hein. C'était un petit peu une tradition des JB's et peut-être des musiciens funk de l'époque. C'est peut-être une tradition même des musiciens tout court, je ne sais pas, de sortir uniquement en 45 tours. C'est-à-dire que ce n'est même pas des singles qui faisaient acheter l'album, c'était que des 45 tours. C'est un exemple, donc j'ai un petit peu galéré à le trouver celui-là. Et finalement, ce qu'on vient d'écouter, ce n'est pas du tout un 45 tours, mais plutôt un extrait d'une compilation que j'ai fini par trouver, une compilation sortie au Japon en 1990, voilà, chez Polydor. Et c'est un très 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 bon disque que je recommande vraiment à tous ceux qui, comme moi, n'ont pas forcément envie de se lancer à la chasse aux 45 tours, surtout que les 45 tours des JB's, ça commence un petit peu à chiffrer quand même, c'est assez prisé. Donc moi, je voulais pas me lancer dans voilà, la collection d'avoir toute une étagère remplie de 45 tours de funk, mais cette compile-là, elle m'a vraiment vraiment séduite parce qu'elle elle contient pas mal de pépites, hein, que ce soit des JB's à proprement parler, mais aussi de toutes les formations annexes, c'est-à-dire que des fois, il y a des parties qui se détachent, qui font leur projet un peu solo, comme Fred Wesley, Maceo Parker, pour les plus connus. Bref, voilà, si vous n'avez pas envie de perdre trop de temps et trop d'argent, eh bien je ne saurais que trop vous conseiller cette compile qui s'appelle tout simplement Food for Funk.
Ouais, j'aime beaucoup ce titre. Il est plein de sens.
Bah oui, abandonner la nourriture pour le funk, c'est vraiment l'essence même des musiciens passionnés. Et en parlant de musiciens passionnés, je fais la transition avec l'artiste dont tu vas nous parler, puisque là on parlait de racines du funk, là on va peut-être aller même dans les racines des racines du funk.
Ouais, et puis on parle d'abandonner la nourriture pour le funk. Moi, je vais vous parler d'un gars dont le surnom est ventre de plomb, à savoir Lead Belly. Donc Lead Belly, c'est dans le civil Eddie William Ledbetter, et il est né en 1888 en Louisiane, 1888 ou 1885. On n'est pas tout à fait sûr, à l'époque les registres n'étaient pas forcément bien tenus dans les territoires les plus pauvres des États-Unis. Il est mort à New York en 1949. Donc voilà, c'est un chanteur de blues et de folk. Alors Lead Belly, il a mené une vraie vie de bluesman. La misère, l'alcool, les conquêtes féminines, les bagarres. Il a fait 2 séjours en prison pour meurtre et tentative de meurtre. En sachant que dans le sud des États-Unis, quand on est noir, et plus encore à cette époque, même se défendre, ça devenait vite une tentative de meurtre.
Pas faux.
Lors de son deuxième séjour en prison, parce qu'il y en aura un troisième par la suite, en tout cas lors de son deuxième séjour en prison, il est découvert par les musicologues John et Alan Lomax, qui aident à sa libération, notamment par une pétition. Redevable, il va beaucoup enregistrer avec eux, et notamment beaucoup de blues, alors qu'il est surtout connu pour ses morceaux de folk, ce qui explique son succès plutôt modéré. Il a même été jusqu'à se brouiller un petit peu avec eux, je crois. La session qu'on va écouter date, elle, de 1949, donc on est vraiment à la toute fin de sa vie. Il est à ce moment-là invité à enregistrer dans une chambre d'hôtel auquel on va étendre des draps sur les murs pour l'acoustique. C'est une session vraiment bricolée avec peu de moyens. Le premier soir, il oublie d'ailleurs sa guitare et il va donc chanter la plupart de ses morceaux a cappella, parfois accompagné de sa femme. C'est des enregistrements vraiment très très bruts, totalement authentiques. Ensuite, après ces enregistrements-là, il va entamer une tournée européenne qui sera interrompue par la maladie et il rentrera aux États-Unis juste pour avoir le temps d'y mourir. Donc là, ce qu'on va écouter, c'est des morceaux de cette compilation en 2 parties, 2x2 LP, qui est sorti en 1953, donc peu de temps après sa mort. Donc voilà, c'est un de mes vinyles de ma collection qui est les plus anciens, 1953. Il passe plutôt bien, comme vous allez pouvoir l'entendre, surtout qu'on est vraiment sur du chant a cappella. Donc je vous propose d'écouter 3 petits morceaux, Looky Looky Yonder, Sheep of Zion et Black Betty.
Et donc complètement a cappella, comme tu dis, parce que, je le rappelle, enfin tu l'as dit, ouais. Il a oublié sa guitare.
Exactement, en fait. C'est dans les disques suivants qu'il sera avec sa guitare.
C'est assez particulier. Look, look yonder, look, look yonder, look, look yonder, where the sun done gone, but I can't hold 'em, wow, I can't hold 'em, wow, I can't hold 'em, no way I do, they either gotta go mine, either gotta go mine, either gotta go mine, and way above her knees, and look, look yonder. Look, look yonder, wow, look, look yonder, where the sun done gone. Ooh, and dine, ow, ooh, and dine, ow, ooh, and dine, she can't say a word, and it's look, look yonder, wow, look, look yonder, yeah, look, look yonder, where the sun done gone, I'm gonna leave you. Oh, I'm gonna leave you. I'm gonna leave you, and I don't care what you say. Look yonder. Wow,
Look, look yonder. Wow. Look, look yonder. Where the sun done gone. It has landed a many a thousand. It has landed a many a thousand. It has landed a many a thousand. It don't move. It don't move. I will be so glad when I get home. I will be so glad when I get home. I will be so glad, oh Lord, it be so glad, oh Lord, I will be so glad when I get home. I will sit right down when I get home. I will sit right down when I get home. I will sit right down, oh Lord, it sit right down, oh Lord, sit right down when I get home. I will shake glad hands when I get home. I will shake glad hands when I get home. I will shake glad hands, oh Lord, and shake glad hands, oh Lord. I will shake glad hands when I get home. I will jump and shout when I get home. I will jump and shout when I get home. I will jump and shout, oh Lord, and jump and shout, oh Lord, and jump and shout when I get home.
Oh, Black Betty, Bamba Lamb, oh, Black Betty, Bamba Lamb, Black Betty, Black Betty. Bamba lamb, Black Betty, Black Betty. Bamba lamb, jump sturdy, Black Betty. Bamba lamb, jump sturdy, Black Betty. Bamba lamb, oh Black Betty. Bamba lamb, oh Black Betty. Bamba lamb, look yonder, Black Betty. Bamba lamb, look yonder, Black Betty. Bamba lamb, turn around, Black Betty. Bamba lamb, jump down, Black Betty. Bamba lamb, oh Black Betty. Bamba lamb, oh Black Betty. Bamba lamb, Black Betty had a baby. Bamba lamb, Black Betty had a baby. Bamba lamb, little thing went crazy. Bamba lamb, little thing went crazy. Bamba lamb, oh Black Betty. Bamba lamb, oh Black Betty. Bamba lamb, jump steady, Black Betty. Bamba lamb, jump steady, Black Betty. Bamba lamb, look at yonder, Black Betty. Bamba lamb, look at yonder, Black Betty. Bamba lamb, oh Black Betty. Bamba lamb, oh Black Betty. Bamba lamb, little thing went blind. Bamba lamb, a little thing went blind. Bamba lamb, the city wasn't none of mine. Bamba lamb, the city wasn't none of mine. Bamba lamb, what about it, Black Betty? Bamba lamb, what about it, Black Betty? Bamba lamb, oh Black Betty. Bamba lamb, oh Black Betty. Bamba lamb, look at yonder, Black Betty. Bamba lamb, jump steady, Black Betty. Bamba lamb, run yonder, Black Betty. Bamba lamb, turn around, Black Betty. Bamba lamb, eh, Black Betty. Bamba lamb, eh, Black Betty. Bamba lamb, look at yonder, Black Betty. Bamba lamb, run around, Black Betty. Bamba lamb, jump down, Black Betty. Bamba lamb, turn around, Black Betty. Bamba lamb, eh, Black Betty. Bamba lamb, eh, Black Betty. Bamba lamb.
Yeah, alors là on est vraiment dans le Cotton Blues.
Ah, pas mal hein, pour ouais, un disque qui a 66 ans.
Ouais, bah ouais, pas mal, pas mal. Mmh. Ça passe très très bien.
Bien
et puis moi je peux en parler parce que je l'ai aussi en fait. Hein, ce disque et c'est vrai que ces sessions acoustiques là et même a cappella, quand on se le passe dans son salon, on est vraiment dans l'époque là. Ça nous
ouais.
L'ambiance nous gagne très très vite. C'est vraiment chouette. Alors on va rester dans la black music puisque le morceau que je vous ai choisi pour la suite, c'est un morceau de Jimmy Smith. Jimmy Smith, ce célèbre jazzman spécialiste de l'orgue Hammond. Donc pour ceux qui voient pas ce que c'est l'orgue Hammond, c'est un clavier très typique que vous avez déjà entendu sans savoir que ça s'appelle comme ça. C'est un instrument qui vient du gospel en fait, qui après a traversé un petit peu tous les styles de musique noire américaine, le jazz, la soul, etc. Donc vous allez vite reconnaître ça. Le disque que je vais vous passer, il est aussi un petit peu vieux quand même puisqu'il date de 1968.
Mm-hmm.
Voilà, moi, et c'est un disque dont j'ai hérité en fait de je ne sais pas qui dans ma famille. Moi je l'ai pas assez ce disque là. Je l'ai retrouvé dans les vieux cartons de grenier, puis j'ai dit tiens c'est sympa ça, je vais le prendre avec moi puisqu'il servait plus. voilà, je vous dis pas ça juste pour vous raconter ma vie, mais c'est une émission sur le vinyle, et le vinyle c'est aussi ça, me semble-t-il.
C'est bâtir sa collection avec des opportunités, des coups de chance, des...
Complètement, et puis des objets qui traversent les générations, qui traversent les frontières, les pays. Enfin voilà, je parlais de ma compile du Japon tout à l'heure qui est venue jusqu'ici, on sait pas trop comment. Voilà, ben là c'est pareil, je ne sais pas qui dans ma famille a acheté ce disque, et puis aujourd'hui ben, ça fait mon plus grand bonheur. Donc l'intérêt aussi de collectionner, d'écouter du vinyle, c'est aussi, c'est aussi ça, me semble-t-il, l'intérêt du matérialisé, en fait.
Ah oui.
Voilà, bref, ce petit trésor de famille, il est dans ma discothèque depuis plus de 50 ans, du coup. Après sa sortie, c'est aussi un peu émouvant, ça, de se dire ça. L'album s'appelle Stay Loose, Jimmy Smith Sings Again. C'est sorti chez Verve, le label quasiment exclusif de Jimmy Smith. Et le morceau que j'ai choisi, c'est une reprise qui s'appelle Is You Is or Is You Ain't My Baby, d'un standard jazz des années 40 interprété à l'origine par Louis Jordan. Je l'ai choisi parce qu'il nous permet d'apprécier deux choses que j'apprécie moi beaucoup chez Jimmy Smith. D'abord sa voix rauque, un peu à la Louis Armstrong, et puis dans la deuxième partie du morceau vous allez voir tout son talent effectivement à l'orgamande qui rend la chose, moi j'ai qu'un qualificatif hein, pour dire ça, c'est tellement cool.
Thank you.
Vous êtes bien sûr Radio G 101.5. C'était Mark Lanegan. Le titre Waiting on a Train, l'album Scraps at Midnight, un album de 98 sur le manche disque. Mark Lanegan, c'est un Américain né en 64, connu pour son timbre rauque, membre successivement de The Jury, Screaming Trees, Mad Season, Queens of the Stone Age et The Gutter Twins.
Joli CV.
Quand même. Il a collaboré avec moult artistes, dont Kurt Cobain, Mondo Generator, Jeffrey Lee Pierce du Gun Club, Masters of Reality, Gérard Manset, et il a participé aux Desert Sessions. Il a une succession d'albums très polyvalente, dans le sens qu'il travaille beaucoup de styles. Son dernier album est bien plus électro, celui-là, vous l'avez vu, était très posé, très calme. Et Mark Lanegan, il sera à Angers au Shabada lundi prochain, le 4 novembre, et nous y serons.
Et on y est, on a nos places.
Et voilà.
Donc voilà, une bonne petite soirée en perspective.
À ne pas manquer.
Ouais.
Et
on vous en reparlera peut-être d'ailleurs.
Ouais.
Mark Lanegan.
Et sur le manche disque, on continue avec un nouveau disque vinyle.
Ouais, cette encore de ta collection.
Vous allez voir, effectivement. Alors c'était la petite découverte de Vide-Grenier, avec aussi des fois les petites surprises de Vide-Grenier.
Les bonnes et les mauvaises.
On ne vous ment pas en vous disant qu'on vous passe du vinyle, car vous allez voir, ça va craquer un peu au début. Mais bon. Somme toute, rien d'insurmontable. Donc c'est Ultravox, c'est un groupe anglais fondé en 1973 qui deviendra Ultravox en 76. Pendant 3 ans, il y a eu plein d'autres noms. Au début, il propose un son à la fois punk, à la fois glam, qui va influencer la scène New Wave et Cold Wave, dont un certain Gary Numan, dont on aura l'occasion forcément de reparler. L'arrivée de Midge Ure en 1979 fait évoluer le son du groupe vers davantage d'instruments synthétiques. Ils se sépareront en 88 pour se reformer 20 ans plus tard avec un nouvel album en 2012. Là, moi, je vais vous proposer un morceau de l'album Vienna qui date de 1980. Donc voilà, on est en plein dans la période où Midge Ure arrive et oriente le groupe vers les synthés, etc. Le groupe enregistre en Angleterre, mais à le nez creux, se rend ensuite chez le génial Connie Planck en Allemagne pour la production de son album. Le morceau s'appelle Western Promise et vous allez voir, voilà, ça crachote un peu. C'est pas de la faute à Connie, mais au prédécesseur qu'il détenait dans sa collection.
Voilà, l'ancien propriétaire.
Pas pris trop soin.
Donc c'est à la fois un disque qu'on va vous passer et aussi sa valeur de rubrique, puisque quelque part on aurait pu l'interpréter. Qu'est-ce qui se passe quand on a une belle rayure verticale sur le bout d'un morceau Qu'est-ce que ça donne à l'oreille? Eh ben, ça donne ça pendant 50 secondes et puis après vous allez pouvoir profiter pleinement de ce morceau.
Thank you. grease on old postcards. Your childhood dreams and divinities. Your temple's got whole world charm. Ancient culture, so on in school. Shall rise again, my western world. Gives up her hand, a victim to your fallen land. This is Zen and Christian man, all minions to Messiah, Pepsi can.
Le son robotique allemand.
C'était donc Ultravox avec ses notes finales qui font effectivement fortement penser à Gary Numan.
On se disait ça hors antenne. Ouais.
Le morceau date de 80. Faudrait que je retrouve le titre exact de Gary Numan où il y a ces parce que je ne sais pas trop qui a précédé qui. Hein. Mais bon,
ah ouais,
après,
faudrait voilà, voir. Ce serait rigolo de voir ça.
On
ouais.
vous en reparlera.
Voilà, et puis on a pu donc admirer cette magnifique, ces magnifiques POC
oui.
que produit oui. Le stylus à chaque oui. fois qu'il parcourt cette petite aspérité due à la rayure. Enfin voilà. On va changer de style complètement parce que moi je me disais qu'on n'a pas passé beaucoup de hip-hop jusqu'à présent dans l'émission du Manche Disque.
C'est vrai.
Et j'avais envie de corriger ça, mais alors bon, je vous préviens, je vais faire dans le old school, le très très old school, bien démodé sur ce coup, avec un morceau issu du premier album d'un groupe totalement oublié, on appelle ça des One Hit Wonder, c'est ça ?
C'est ça.
Qui s'appelle BVSMP, un acronyme assez énigmatique pour Baby Virgo Shocking Mr. P. Donc pour ceux qui s'en souviennent, je ne sais pas s'il y en a, ils ont sorti, c'est leur hit le plus grand, le tube de l'été 1988, un tube hip-hop qui s'appelait I Need You, un peu R&B, et fort de ce succès, ils ont vendu quelques copies quand même de leur premier album qui s'appelle The Best Belong Together. Le deuxième album qu'ils sortiront sera un échec cuisant, j'ai une copie moi du premier dans ma collection. Alors pour décrire cet album, je dirais qu'il y a une alternance assez frappante entre la bonne soupe commerciale assez easy listening et pas très 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 intéressante à mes oreilles. Et puis des morceaux un petit peu plus typés, vraiment où on voit vraiment que les mecs viennent quand même de culture hip-hop, mais une hip-hop qui se réfère plutôt à des artistes que les connaisseurs peut-être se rappelleront, les MC Hammer, les Run DMC, donc voilà, ceux qui voient de quoi je parle voient un petit peu de quel genre d'instru. Donc le morceau s'appelle Grab That Butter. C'est le moment de sortir votre ensemble jogging, vos Nike Air Jordan, votre radiocassette type Ghetto Blaster. C'est parti.
Manche-disque.
Bon, eh ben, j'espère que personne n'aura chopé un torticolis en tournant sur la tête sur BVSMP, mais qu'est-ce que c'était que ce charmant petit morceau, Julien, qui est enchaîné ?
Est-ce que vous n'aviez pas l'impression d'être une sorte de flic à Naples et de faire prendre une pause alors que vous traquez des affreux méchants de la mafia avec votre petite amie pour aller sur le bord de la mer Adriatique et passer une journée incroyable ?
Ah, moi, si, c'est exactement ça, avec le soleil en plus et la chaleur.
Voilà, exactement. Alors, ce petit morceau qui fait vraiment penser à la une musique, un morceau qu'il y aurait dans un film italien type Polizio Tesco, en fait, c'est le résultat de l'alliance de deux groupes jamaïcains, Byron Lee and the Dragonaires et le chanteur et compositeur Mighty Sparrow. Donc les deux se retrouvent et ça fait Sparrow Dragon. L'album s'intitule même Sparrow Dragon Again parce que je pense qu'il s'agit de leur deuxième album ensemble.
Ce serait logique.
Les deux formations évoluent sur la scène jamaïcaine au mi-temps des années 70 en proposant des morceaux à la fois calypso, soca, ska et puis ces espèces de trucs un peu ambiantes, quoi. L'album date, lui, de 1975 et le titre, c'était Sad Sweet Dreamer.
Ben, bien charmant morceau. Et figure-toi, mon cher Julien, que c'est pratiquement l'heure de se quitter.
Eh oui, effectivement.
Mais avant cela, il nous reste bien sûr à vous passer, chers auditeurs, l'interview traditionnelle de fin d'émission. Et ce soir, eh bien, c'est celle de Pascal. Pascal, c'est le gérant de CDBD qui, comme son nom ne l'indique pas, est un des principaux vendeurs de vinyle à Angers, voilà, en plus des CD et des BD. Et ça se situe à côté de Fleur d'Eau, donc les diggers, comme on les appelle, les chasseurs de vinyle le connaissent bien hein, sur Angers, c'est vraiment un incontournable. Mais avant de vous passer l'interview, on va vous remercier d'avoir été à l'écoute,
oui,
chers auditeurs.
Tout à fait, vous donner rendez-vous dans 15 jours.
Complètement, en espérant que cette émission vous ont mis sur le bon sillon pour entamer et parfaire votre collection de vinyle. Et j'en profite aussi pour remercier tous ceux qui ont liké notre page depuis la dernière émission. Vous avez été nombreux et du coup, vous réagissez au podcast, à nos posts éventuels parce que voilà, ça ne se résume pas qu'au podcast. On poste aussi régulièrement des petits contenus vinilesques. Merci pour tous vos commentaires, merci pour toutes vos réactions. À dans 15 jours donc.
À dans 15 jours.
Et voici donc l'interview, oh là j'ai fait un mix, l'interview de Pascal suivi du morceau de sa collection bien sûr qu'il nous aura choisi pour clôturer cette quatrième émission du Manche Disque. Bye bye.
Bye.
Alors je suis avec Pascal qui est gérant d'une boutique dans le centre-ville, incontournable pour tout collectionneur de vinyle qui se respecte, qui s'appelle CDBD, qui se situe 5 places Mondain Cholouino, c'est ça ?
Oui, c'est ça.
À côté, en fait, de Fleur d'Eau. Voilà, mais je pense que les personnes qui écoutent du vinyle sur Angers savent très bien où se situe CDBD. Ben, je vais te laisser te présenter un peu plus en avant.
Alors, je m'appelle Pascal, donc je gère le magasin CDBD depuis la fin 1995. Donc, on vend beaucoup de vinyle, CD, DVD et aussi de la BD d'occasion. Et on a un petit rayon vinyle neuf. Le magasin a ouvert dans un petit local de 10 mètres carrés. Et à partir de 1998, on s'est installé à cet endroit-là, donc en face de Fleur d'Eau. Et le magasin s'est agrandi, une trentaine de mètres carrés. Et depuis environ 15 ans, je me suis mis à faire du vinyle, c'est-à-dire au milieu des années 2000. J'ai senti qu'il y avait un petit frémissement vers 2005 et 2006. J'avais un tout petit bac d'occasion à l'époque, mais ça constituait quoi, une centaine de pièces seulement. Mais j'ai vu que ça partait de plus en plus, donc je me suis lancé dans le neuf 2 ans plus tard. Et à cette époque, on pouvait encore trouver un petit peu de vinyle neuf chez les majors, chez les gros labels pour des prix tout à fait corrects. Il n'y avait pas tellement de choix, mais c'était toujours intéressant pour les collectionneurs qui n'avaient jamais arrêté le vinyle. Et petit à petit, vers la fin des années, vers 2010-2011, ça a pris de l'essor. Et en 2012, j'ai refait le magasin en vue justement de répondre à cette offre, à cette demande plutôt, des passionnés de musique. Et j'ai vraiment ouvert un vrai rayon occasion et vinyle, qui est devenu le produit principal finalement du magasin. Ces dernières années.
Et justement, la première question que je vais te poser dans le cadre de l'interview du Manche Disque, elle est tout à fait dans le thème. C'est pas banal de commencer à vendre du disque vinyle dans les années 2000.
Comment tu t'expliques, toi, ce revival, comme on dit, ce retour de ce support musical?
Je pense que, déjà, c'était une époque où le téléchargement commençait un tout petit peu, et beaucoup de gens aussi gravaient pas mal de CD. Certaines personnes n'étaient pas très, très fans de ce début de dématérialisation qu'il y a eu, et petit à petit, ils ont voulu se tourner vers un objet, un vrai objet, le vinyle, grâce à sa pochette, à sa dimension, à son son aussi. Il correspondait vraiment à cette demande. Il y a aussi une question de génération. Certaines personnes, disons à l'époque, il y avait la quarantaine, recommençaient à se constituer la collection qu'ils avaient à leur adolescence. Et certains ont même revendu la totalité de leurs CD pour se retourner vers le vinyle. Voilà, et puis leurs enfants aussi, depuis une dizaine d'années, ont tendance aussi un petit peu à acheter du vinyle. Voilà.
Et là, on va rentrer dans la partie un peu plus perso de l'interview. Donc, quelle est ta première expérience vinyle?
C'est plutôt les disques de mes parents que j'écoutais quand j'avais une dizaine d'années. Ils étaient quand même plus branchés sur la chanson française, mais dans le lot, il y avait quelques albums des Beatles. Il y avait aussi, je me souviens très bien, d'une compilation de Phil Spector avec le son des années 60, le son soul des années 60, que j'ai gardé d'ailleurs.
Est-ce que tu te souviens du premier disque que tu as acheté?
Alors, le premier disque que j'ai acheté quand j'étais adolescent, ça devait être un U2. U2, peut-être un Simple Minds, enfin, c'était la grande époque de la New Wave. Et plus tard, quand j'ai gagné ma vie, quand j'ai recommencé à acheter du vinyle, le premier vinyle neuf, je pense que c'était peut-être un album des Clash, peut-être le London Calling.
Tu peux nous en parler un petit peu de ce disque?
J'ai découvert les Clash un petit peu après qu'ils se soient séparés, c'est-à-dire plutôt vers 87-88. Et c'est vrai que par rapport à ce que j'écoutais à l'époque, qui était plutôt New Wave ou des groupes comme les Smiths et tout ça, ouais, ça m'a fait un petit choc d'écouter des choses beaucoup plus rock et plus rentre dedans et plus engagé. Et ouais, c'est mon album préféré parce que c'est celui qui mêle le plus un petit peu toutes les influences des Clash, aussi bien le reggae, le rock'n'roll, le rock, il y a même un peu de dub si je me souviens bien, et c'est un album presque parfait.
Si je me souviens bien, la cover de cet album, ça reprend un peu le visuel, je crois, d'un album d'Elvis Presley, c'est ça?
Le 56, je crois, 156, ouais. Qui a été repris par deux ou trois autres groupes d'ailleurs aussi plus tard. Et oui, c'est une très belle pochette. Ouais.
Est-ce que tu te définis, toi, comme un collectionneur de vinyle?
Je dirais pas ça. J'ai à peu près 400 à 500 albums chez moi, la moitié en vinyle, la moitié en CD. Mais j'aime bien varier mes écoutes, et j'avoue que le fait d'être disquaire me permet de retrouver les disques que je ne garde pas assez facilement. Donc quand je me lasse d'un album, parfois ça m'arrive de le ramener au magasin pour en prendre un autre à la place, et j'aime pas accumuler trop de disques parce que je pense que au bout d'un moment on ne les écoute plus, donc j'aime bien réécouter régulièrement les disques que je possède. Voilà.
Écoute Pascal, moi je te remercie beaucoup de t'être prêté au jeu de l'interview du Manche Disque. Et pour conclure, c'est un petit peu le rituel des invités, je te propose de choisir un morceau qui va conclure l'émission de ce soir.
Alors, le groupe que j'apprécie en ce moment et depuis déjà presque une dizaine d'années, c'est Leisure Society, c'est un groupe anglais. Ils ont fait 5 ou 6 albums, il y en a un qui vient de sortir. Et le premier album est vraiment magnifique, il s'appelle The Sleeper. C'est très influencé par des groupes comme Fleetwood Mac ou bien les Crosby, Stills & Nash, les premiers Neil Young. C'est très mélodique, avec des très beaux arrangements. Et bah, tous les titres sont bons sur cet album, mais le premier par exemple, Fighting Chance, est magnifique.
Ok, bah on s'écoute ça tout de suite. Au revoir Pascal, merci encore.
Au revoir. Thank you.
Radio G 101.5 FM. www.radio-g.fr